Une centaine de dirigeants politiques, d'entreprises et d'experts réunis en Angleterre à l'initiative de Rishi Sunak, Premier ministre britannique. Parmi eux, Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, le roi Charles III, à distance, ou encore Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Au programme, l'intelligence artificielle qui les préoccupe depuis son essor.
L'utilisation malveillante de systèmes d'IA à des fins terroristes, criminelles ou étatiques pourrait provoquer des niveaux terribles de mort et de destruction, un traumatisme généralisé et des dommages psychologiques d'une ampleur inimaginable.
Formidable outil d'innovation, l'intelligence artificielle pourrait s'avérer désastreuse si elle tombe dans des mains malveillantes. C'est la crainte des participants à ce sommet. Sécurité, désinformation, terrorisme, déstabilisation des démocraties font partie des inquiétudes principales. Alors que certains États sont en passe de légiférer sur le sujet, le sommet entend initier un grand débat mondial sur les menaces de l'IA avant que la situation ne devienne hors de contrôle.
Je pense que l'intelligence artificielle est l'une des plus grandes menaces à laquelle nous sommes confrontés. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous serons face à quelque chose qui sera bien plus intelligent que nous. Il n'est donc pas bien certain que nous puissions contrôler cette chose, mais nous pouvons aspirer à la guider dans une direction bénéfique pour l'humanité.
Pour approfondir la question, rendez-vous est déjà pris pour de nouveaux sommets dédiés à l'IA en Corée du Sud, puis en France. Avec un objectif, unifier les efforts face à une menace perçue comme globale.
Nous devrions nous inspirer du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui a été créé pour parvenir à un consensus scientifique international. Je vais donc proposer de créer un groupe d'experts désigné par les pays et les organisations présents avec pour but la publication d'un rapport sur l'état de la science de l'IA.
Santé, transport, culture, cette nouvelle technologie offre déjà de prometteuses perspectives d'innovation. Peut-on donc distinguer une bonne d'une mauvaise IA ? Son développement peut-il se faire sans risque ? L'IA est-elle une menace pour la sécurité du monde ?
En tout cas, l'idée, c'est qu'on a souvent déploré le rôle du politique par rapport au sujet technologique, qu'il s'en saisissait a posteriori, tardivement. Là, il y a en tout cas une mise sur la place publique. Simplement, vous voyez que ce sont les États occidentaux qui se déplacent. Et par exemple, on parle de sécurité. Dans l'intitulé, on parle également de confiance, donc des notions plutôt diffuses et abstraites. Par exemple, pour la France, c'est le ministre de l'économie qui s'est déplacé. Et donc, vous voyez bien que il y a un arbitrage entre ce monde économique, celui de la politique, et puis, pour nos pays occidentaux, mais pas que, la question de la démocratie, de l'information. Et donc, c'est quelque chose sans précédent en termes de transversalité, par la variété des domaines que ça couvre, et le fait que, précisément, il y a une question de compétences, une question d'investissement et de droit.
Isabelle Rivière. Un point de vue technophile, qui est mon propre biais, assumé totalement. L'intelligence artificielle est un outil formidable, une nouvelle technologie qui est mise dans les mains des humains. Et comme toujours, on peut avoir des bienfaits ou des effets néfastes en fonction de ce qu'on en fait. Donc ça va effectivement dépendre de ça. Maintenant que les États s'en saisissent, et surtout nos États, me semble une bonne chose.
Sur les menaces, vous pensez qu'il faut le faire dès maintenant?
Sur le bon usage. Alors, il faut le faire dès maintenant, c'est pas nouveau. Il y a eu en 2017 la déclaration de Montréal sur une IA responsable. Il y a eu en 2020 le lancement du programme du partenariat mondial pour l'IA lancé par la France. Donc ce sommet s'inscrit dans une série de mesures qui ont déjà été prises.
Julien, je vais passer pour le technophobe là, mais moi je ne suis pas technophobe, simplement je constate, parce que mon boulot c'est de travailler sur les fake news, les fausses informations, que l'intelligence artificielle dans mon domaine donne des possibilités absolument incroyables. C'est-à-dire que alors, il y a des possibilités aussi super. On peut, par exemple, maintenant traduire en direct votre voix en italien, en allemand. Et ça va être génial avec son téléphone. J'adore ce genre d'application. Sauf que je peux aussi vous remplacer par quelqu'un d'autre, vous faire dire n'importe quoi et donner à ça une ampleur énorme parce que vous pouvez ensuite utiliser des bots pour aller envoyer vos contenus sur Internet de partout. En fait, ça fait rentrer la désinformation dans une nouvelle ère. Je ne peux pas vous dire à quoi ça va ressembler. Je peux simplement vous dire que c'est un peu inquiétant. Ouais.
Alors, vous pouvez... Quelques années de cela, il y a une grande escroquerie qui était l'escroquerie au faux Jean-Yves Le Drian. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette escroquerie.
Ancien ministre de la Défense.
Ancien ministre de la Défense. Et effectivement, les attaquants avaient utilisé un masque en silicone et avec une caméra, avaient appelé des leaders d'opinion en leur demandant de payer une rançon au nom de la France, etc. Et il s'avère que plusieurs millions d'euros avaient été piratés avec ce qui était quand même une construction esthétique et cinématographique assez
rudimentaire. Artisanale.
Voilà. Et donc, et ça avait fonctionné. Et donc, c'est vrai que dès lors qu'on a la capacité de parler aux personnes en direct, d'utiliser le bon vocabulaire, d'avoir les arguments, d'avoir la crédibilité du propos, bah, évidemment, soit pour tenir des propos ou au contraire se mettre en position de démontrer que des propos n'ont pas été tenus, que des rencontres n'ont pas eu lieu ou que des gestes n'ont pas été commis. Vous voyez, la notion de vérité va être effectivement
dans une vérité alternative.
Comme d'autres risques à certains moments, je pense que ça change profondément notre rapport à la vérité et qu'il y a vraiment un besoin de redevenir critique. Nous sommes dans une période probablement un peu intermédiaire dans laquelle la plupart des gens ont appris à consommer du réseau social de manière peut-être quotidienne ou en tous les cas assez importante, sans jamais remettre en question ce qui s'y fait. Et probablement, on peut espérer que la technologie va avancer jusqu'à un moment, dans quelques temps, où on pourra distinguer ces contenus, on pourra probablement les détecter automatiquement, ou en tous les cas les classifier.
Mais c'est un peu flou ce que vous disiez, dans quelques temps, enfin, c'est pas très
précis. Oui, parce que en termes de sécurité, les attaquants ont toujours un pas d'avance, puisque le défenseur réagit. Et donc, en tout état de cause, ça doit quand même interroger tout le monde sur ce qu'on pense d'une information qui arrive et comment on la vérifie. Et ça, c'est un apprentissage à faire.
Et justement,
toujours pareil, moi, ça fait longtemps que je travaille dans ce domaine de la lutte contre les fake news et on a toujours cette impression que grâce à la technologie, ça va m'aider, moi, en tant que journaliste, et ça va résoudre le problème. C'est-à-dire qu'on va, quelque part, miraculeusement, passer les vidéos et les photos dans un outil qu'on aura développé et qui va ressortir avec un tampon vrai ou faux. Bon, moi, ça fait 10 ans que j'entends parler de ça. J'ai jamais vu l'outil arriver. Ce que j'ai vu arriver, c'est ça, c'est de faire des deepfakes. Donc, j'espère que, je crois que Joe Biden en parlait, il espérait qu'on pourrait un jour automatiquement repérer avec des watermarks, des petits codes qui seront dans les photos ou dans les vidéos, repérer ce qui est vrai ou faux. Mais ça, pareil, j'en entends parler depuis 10 ans. Et pour l'instant, ça n'arrive pas.
Activer des produits malveillants. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, elle a à partir d'une masse de documentation, dès lors qu'on, par étape, alors peut-être pas pour lui dire faire un produit qui peut tuer des gens, mais alors si elle était contrainte pour éviter ce type de production. Par contre, elle pourrait, par séquence, effectivement, si elle n'a pas été empêchée techniquement par lors de sa conception, concevoir effectivement des outils malveillants. On a vu d'ailleurs des recettes de napalm qui avaient été commandées et bridées dans certains cas parce que la manière dont on posait la question et dès lors qu'on utilisait le terme napalm en épelant les lettres, la machine le percevait différemment. Et donc à ce moment-là, autorisait et fournissait la constitution de la recette. En fait, la difficulté, c'est que effectivement, dès lors qu'on a une base de connaissances, bah, c'est une automatisation, une exploitation avec effectivement une itération. C'est-à-dire qu'on va par tâtonnement faire en sorte d'arriver à un résultat et ensuite une capacité de l'automatiser. Et ça, c'est vraiment sans précédent. Juste un mot sur le cadre. On voit bien que les États sont à la manœuvre, mais ils s'associent obligatoirement avec des entreprises. Dans la déclaration, un décret présidentiel, le président Biden, son executive order, dit bien « Nous avons établi ce décret présidentiel et nous avons collaboré avec 15 grandes entreprises ». On n'imagine pas privé d'autres domaines où il y a cette association presque
étatique
et que l'État ne serait pas autonome, ne serait pas capable d'agir en étant en seule autonomie, alors qu'en principe, le privilège de l'État, de l'autorité publique, c'est l'expression d'un droit et d'un cadre juridique.
On va évoquer.
C'est une question difficile. Je pense que il y aura forcément un moment, enfin j'espère, un consensus pour interdire un certain type d'armes, comme il y a eu sur tous les autres types d'armes biologiques ou autres, et qu'il y aura toujours des États voyous pour essayer de s'y soustraire.
Et là, pour l'instant, c'est quand même les États-Unis, la Chine, a priori,
oui,
pas forcément des États
il faut toujours,
voyous.
Pour moi, séparer clairement la maîtrise de la technologie de son application. Et indépendamment du fait de décider d'utiliser une arme, ou en tous les cas une technologie de manière agressive, ne pas la comprendre, ne pas la maîtriser, ça empêche aussi de s'en défendre, voire même de la reconnaître. Si on parlait des deepfakes depuis le début, si vous ne saviez pas qu'on peut fabriquer un deepfake, vous n'essayeriez même pas de l'identifier dans une information. Donc ça nécessite quand même de posséder la technologie pour pouvoir la contrôler.
Le problème, dans le même temps.
c'est qu'il faudra la réguler pour s'entendre sur le fait de ne pas l'utiliser.
Juste avant. Pas pour l'instant de manière avérée. Pourquoi ? Parce que là, on est sur un théâtre d'opération très physique. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est quand même l'engagement de la vie de femmes, d'hommes sur des théâtres d'opération. Donc là, on est passé à une phase opérationnelle de la même manière que cette cyberguerre n'a pas été témoignée, enfin, n'a pas été documentée de manière conséquente. Pourquoi ? Parce que là, on est tellement dans la phase physique de l'engagement que la partie numérique, contrairement à ce qu'on a pu avoir en Ukraine quand il s'agissait de préparer un terrain, d'amplifier des actions qui étaient conduites opérationnellement, là, manifestement, on a dépassé, là, en termes de brutalité et de violence, on est sur un théâtre d'opération très militaire, très conventionnel. Par contre, ce qui est vrai, c'est que cet arsenal va faire partie des dispositifs et que jusqu'à présent, les organisations internationales avaient essayé déjà avec le numérique, avec Internet. En 2001, l'Union internationale des télécommunications, c'est l'Agence des Nations Unies en charge de ce qui était, en tout cas, les connexions numériques, donc l'Internet, avait essayé de faire un SMSI, un sommet mondial sur la société de l'information, considérant précisément que c'était un sujet qui relevait de la globalisation mondiale. Ça a été, alors il existe toujours, il y a des réunions régulières, mais qui ne dépassent pas le stade incantatoire et des réunions diplomatiques. Donc c'est vrai que la difficulté, c'est on a des règles, on a des déclarations, comment est-ce qu'on les applique opérationnellement ?
Alors justement, on veut trop régulaire en France, donc on est trop conscient des problèmes que ça pourrait poser. On est, donc nous, comme on veut respecter des règles, on va poser des règles. Mais en fait, pourquoi en France, on n'est pas très bon dans le domaine de l'intelligence artificielle, je pense que ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas parce qu'on a posé trop de règles, c'est parce qu'on n'a pas réussi à développer ces technologies-là. Donc je pense, et je trouve que ce qu'a fait Joe Biden, honnêtement, là, c'est du jamais vu. Alors, il paraît que c'est parce qu'il a vu un film avec Tom Cruise où il y avait de l'intelligence artificielle, qu'il a réalisé, c'est comme ça qu'ils ont vendu le truc, et qu'il a réalisé que l'intelligence artificielle allait être un vrai problème. Mais au moins, il a décidé de prendre les choses à bras le corps.
Isabelle Ril, même question. Et comment ne pas empêcher l'innovation en régulant trop ?
En intelligence artificielle en France ?
C'est vrai ? On a beaucoup de start-up et on est bon.
Alors, on est très bon sur tout ce qui est formation des talents. La plupart des grands spécialistes, d'ailleurs, de tas d'endroits au monde, viennent de France. Donc, en termes de
Yann Lequin, par exemple, voilà, pour rappeler, en termes de
Julia, etc. Donc, en termes de formation, de recherche et d'innovation, on est très bon. Ce dont on parlait avant, c'est qu'effectivement, il y a un petit problème d'investissement. C'est-à-dire que là où on a des startups qui fonctionnent très bien, il arrive souvent qu'à partir d'une certaine taille, elles vont chercher des fonds à l'étranger.
Hélène Rine, par exemple, des applications dans la médecine, notamment ?
Oui, bien sûr.
Par exemple ?
On est très bon en santé, tout ce qui est traitement automatique de radiologie. On a une startup, je parlais d'expériences que je connais, des simulations médicales pour préparer les opérations, traitement des maladies rares. D'accord. Oui, bien sûr, on est très bon.
J'écoute Vladimir Poutine parce que pour l'instant, c'est un des pays qui est le plus fort dans ce domaine-là. Ils sont capables de lancer des énormes campagnes de désinformation dont on fait les frais en France, c'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir une influence sur le public français, et je pense qu'eux s'activent, à mon avis, pour développer les deepfakes qu'on a vus. Je pense qu'il y a des gens à Moscou qui y travaillent dessus. Écoute.